intitulé les deux séances qui auront lieu, la première aujourd'hui, la seconde au mois de janvier, la crise vers une nouvelle division internationale du travail. Je voudrais ce soir vous parler essentiellement de deux problèmes, sous un angle bien sûr assez partiel et principalement économique. Le problème de la crise d'une part du système monétaire international et d'autre part, problème de l'inflation. Il est bien sûr difficile, voire impossible, d'apprécier correctement la situation de crise actuelle et a fortiori de proposer une stratégie politique cohérente sans revenir sur les conditions dans lesquelles la crise est apparue. Alors il y a deux façons d'aborder le problème qui nous intéresse. La première pourrait être appelée objective et la seconde plus subjective. Disons pour simplifier qu'il y a d'un côté le problème de l'évolution du capital et de l'autre le combat de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier en général. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'aspect détraquement financier de la crise et, encore une fois, principalement, la crise du système monétaire et l'inflation. Quelles sont les causes de la crise, tout au moins officiellement? Eh bien, officiellement, les causes de la crise sont essentiellement et schématiquement de deux sortes. Il y a d'abord eu la hausse importante du prix des matières premières et du pétrole en 1973. Cet argument est constamment resservi à l'occasion des conférences de presse et déclarations présidentielles. Kissinger, lui aussi, l'a ressorti cette semaine encore à l'occasion de son discours à la conférence Nord-Sud. La crise, selon M. Kissinger, d'ailleurs, la vision est la même pour Giscard, c'est la faute aux Arabes. Et s'ils continuent de vouloir augmenter le prix du pétrole et le prix des matières premières, eh bien on leur coupera les vivres, et cela au sens physique du terme, c'est-à-dire qu'on ne leur livrera plus des denrées alimentaires. Je vous renvoie au chantage de Nixon, puis de Ford et de Kissinger sur les sur les céréales. Voilà donc pour la première série de causes. Augmentation massive du prix des matières premières et du pétrole. Deuxième sorte de cause officielle, la crise est le fruit de toute une série d'équilibres, de déséquilibres bien sûr qui sont momentanés. Déséquilibre du système monétaire international, déséquilibre des prix par rapport au salaire. Fognat va jusqu'à parler de déséquilibre des individus, vous savez, ce déséquilibre qui frapperait un certain pourcentage de plus en plus important dans les sociétés industrielles. Bon, il va de soi que toutes ces explications ne tiennent pas debout et font bon marché de la réalité concrète, celle de l'impérialisme dont Biotto vous a parlé longuement et sur laquelle je ne reviendrai pas, et d'autre part, elles font bon marché également de la lutte des classes qui vous a été également déjà développé. Malheureusement, ces explications ne sont pas l'apanage des idéologues officiels. On les trouve également sous la plume d'économistes de gauche qui jouissent d'une certaine éminence publicitaire, à défaut d'une éminence certaine. Je pense à d'anciens camarades comme Michel Rocard ou encore à Attali, par exemple, qui va jusqu'à dire qu'il n'y a pas de crise. Il a bâti un concept extraordinaire qui est le concept d'acrise. Donc, ces explications ne sont malheureusement pas l'apanage de la bourgeoisie. Cela dit, elles sont toutes fondées sur une vision statique des choses. Cette vision est celle d'un monde qui est dépeint sans contradiction et sans lutte des classes. Et dans un monde de cette nature, toute crise est vécue comme une espèce de traumatisme, que ce traumatisme ait pour nom la guerre du Vietnam, ou encore les événements de 1968, ou encore les soubresauts du dollar et la crise du système monétaire international. C'est que dans un monde qui est perçu sans contradiction, il doit bien exister une thérapeutique qui permette de surmonter ces déséquilibres et par conséquent de faire en sorte que tout redevienne comme avant. Je voudrais principalement reprendre aujourd'hui ces deux arguments classiques de l'inflation et du système monétaire pour montrer qu'ils ne sont en réalité qu'une manifestation, parmi d'autres, de la crise, qui ne sont que des instruments à la fois de récupération pour la première, l'inflation, et de domination pour la seconde, et enfin que leur détraquement, loin d'être momentané, marque en réalité l'approfondissement de la crise. Alors, je traiterai successivement deux points. D'abord, le système monétaire international, son évolution, sa crise, et dans un deuxième temps, l'inflation. Et d'abord, le système monétaire international, son évolution, ses crises. Vous le savez, depuis 1967, le système monétaire ne cesse de vaciller, de se redresser, de reflancher tout aussitôt. Les crises ont été de plus en plus fréquentes, de plus en plus vives. Manifestement, depuis des années, et dès avant que la crise ne connaisse l'ampleur actuelle, la mécanique complexe des paiements internationaux s'est littéralement emballée et a commencé à échapper à ceux qui la contrôlaient, c'est-à-dire a commencé à échapper aux États-Unis. Alors le problème est de savoir comment et pourquoi une telle situation a pu voir le jour et quelles conséquences elle est susceptible d'entraîner. Voilà deux questions fondamentales auxquelles je voudrais répondre, tout au moins essayer, maintenant. Et d'abord, qu'est-ce qu'un système monétaire international ? Je m'excuse pour certains, je vais essayer d'être très simple pour bien vous faire saisir comment on a imaginé et comment a pu fonctionner le système monétaire international après les accords de Bretton Woods de 1944. Qu'est-ce que donc un système monétaire ? Eh bien, prenons un exemple. Quand Paul achète des machines en Italie, comment est-ce qu'il va régler l'industriel qui lui vend ces machines ? On peut imaginer différents systèmes. Un premier système pourrait être le suivant. On peut imaginer que la lire, monnaie italienne, et le franc sont librement convertibles en or. Dans ces conditions, Paul peut, avec ses francs, acheter de l'or. Il va l'acheter en général à la Banque centrale. Dans notre exemple, disons que ce sera la Banque de France. Il va acheter de l'or à la Banque de France, qui va lui permettre d'expédier à son créancier italien l'argent, enfin la quantité d'or nécessaire pour l'achat, et lui-même, l'Italien, changera cet or en livre. Voilà ce qu'on appelle la convertibilité d'une monnaie en or. Et pour que la transaction s'effectue normalement, il est bien sûr nécessaire que les rapports de change, franc-or et lire-or, soient strictement définis de telle sorte que, en fin de compte, le créancier italien reçoive très exactement le montant de sa créance. Exemple. Si cette créance est de 40 000 livres, et si la lire vaut 100 mg d'or, il devra recevoir, en principe, il devra recevoir 4 kg d'or. En d'autres termes, chaque monnaie dans un système de ce genre est définie de manière stable. Et cette définition, or, permet de calculer les parités, c'est-à-dire le rapport de change entre deux monnaies distinctes. Autre exemple, si la définition or du franc est de 100 mg d'or, la parité franc-lire sera 1 franc égale 1 lire. Et si la définition du marc est 200 mg d'or, eh bien la parité franc-marc sera 1 franc égale 0,50 marc. Je viens ainsi de décrire deux principes fondamentaux du système monétaire international tel qu'il a fonctionné avant la Première Guerre mondiale. En réalité, c'est le premier qui ait jamais fonctionné. Ce système était basé sur le régime de l'étalon or et sur la libre convertibilité or et les parités fixes. Alors, les avantages d'un tel système sont évidents. Comme il n'existe pas encore de recettes pour pour transformer du plomb ou du fer en or pur, on voit que chaque pays est contraint de ne pas dépenser plus d'or qu'il n'en possède dans ses réserves. C'est-à-dire, en réalité, d'équilibrer sa balance des paiements. Donc, c'est un système qui, en théorie, est extrêmement stable et ne permet pas de déséquilibre. En réalité, comme tout modèle, il faut tout de suite préciser que ce système n'a jamais fonctionné aussi simplement. Et du temps de la puissance économique de la Grande-Bretagne, à la fin du 19e siècle notamment, c'est la livre sterling qui rapidement a remplacé l'or, car il était beaucoup plus simple d'effectuer un virement sur une banque londonienne très en vue que de transporter de l'or. Aussi, la livre sterling s'est pratiquement complètement substituée à l'or comme moyen de paiement. Et dès la fin du 19e siècle, l'étalon sterling s'était imposé à la place de l'étalon or. Nous arrivons au XXe siècle, Première Guerre mondiale. Cette Première Guerre mondiale précipite le déclin industriel et commercial de la Grande-Bretagne et favorise, vous le savez, l'émergence des États-Unis comme grande puissance. La Première Guerre mondiale a ainsi contribué à l'épuisement des stocks d'or des différents belligérants et, par conséquent, a condamné le système définitivement de l'étalon or. Et il fallait construire à ce moment-là un nouveau système monétaire international. Et on va passer de ce système de l'étalon or à un nouveau schéma. Alors, comment a-t-on fait ? Eh bien, l'or étant rare, on a essayé de s'en passer. Déjà, comme je viens de vous l'expliquer dans le système précédent, l'or ne jouait au fond qu'un rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire en langage marxiste, un rôle d'équivalent général, qui permettait, dans notre exemple, de passer de la lire au franc et vice-versa. Alors, plutôt que de procéder en deux étapes, changer le franc en or, puis l'or en lire, eh bien, On a imaginé de passer directement du franc à la lire, du franc aux marques, du franc à toute autre monnaie. Et ceci, comment? Eh bien, tout simplement grâce à l'existence d'un marché d'échange. Alors, qu'est-ce qu'un marché d'échange? C'est un marché où on vend et on achète des monnaies étrangères, c'est-à-dire des devises. Les demandeurs de devises, eh bien, ce sont ceux qui ont besoin de monnaie étrangère pour importer des marchandises de l'étranger ou régler des échéances d'emprunt ou encore pour, par exemple, faire du tourisme. En d'autres termes, tout ce qui, dans une balance des paiements, consiste en sortie de devises, se traduit sur un marché d'échange en achat de devises et inversement. Et le problème essentiel avec un tel système est celui du prix auquel les devises vont se vendre ou inversement vont s'acheter. Bon, comme dans tous les marchés, le prix est, dans une certaine mesure, fonction de l'offre et de la demande relative. Ça veut dire que si à un moment donné la balance des paiements d'un pays est en déficit, eh bien la demande de devises aura tendance à être plus forte. Et par conséquent, le prix des devises au cours du change a tendance à s'élever. On dit alors que le cours du change est flottant. Ce système présente de très nombreux inconvénients. Premier inconvénient, très grave, il transforme toute opération commerciale avec l'étranger en une espèce de loterie. En effet, il y a souvent un laps de temps entre le moment de l'achat et le moment où le créancier perçoit le prix de sa vente. Or, le cours peut parfaitement changer pendant ce laps de temps. Alors, de deux choses l'une. Si le cours augmente, les affaires sont excellentes pour le vendeur, puisque en plus du bénéfice normal, il réalise un bénéfice supplémentaire du fait de l'augmentation du cours de sa devise. Il fera un bénéfice supplémentaire qu'on appelle gain de change. Mais inversement, si le cours baisse, alors là, les choses vont plus mal, le bénéfice du vendeur est amputé, voire carrément annulé. Donc, tout régime de change flottant entraîne un risque certain pour les industriels et pour les négociants. Et vous savez bien que ce genre de catégorie de personnes n'aiment pas du tout assimiler leur travail, leur négoce, leur métier, à celui d'un parieur sur un champ de course. Voilà pour le premier inconvénient du système de change flottant. Deuxième inconvénient, encore plus inquiétant, enfin plus grave pour les industriels et les commerçants, c'est un système qui encourage, vous en doutez, la spéculation. En effet, le marché d'échange est à la merci, et c'est ce qui s'est passé dans la réalité, d'énormes masses de capitaux flottants qui se déplacent uniquement d'un pays à l'autre en fonction du taux d'intérêt avantageux susceptible de rémunérer ces capitaux et des perspectives d'augmentation ou de baisse du taux de change des différentes monnaies. Si bien que, en définitive et au total, avec un système de ce genre, l'équilibre des balances commerciales peut n'être plus fonction que de l'ampleur de la spéculation qui règne sur le marché d'échange, au lieu d'être lié à une certaine compétitivité, dirons-nous pour simplifier, des différentes industries exportatrices. C'est un système donc qui finit où la politique des États finit par se faire, comme le disait le regretté général de Gaulle, à la corbeille. Donc il s'agit d'adopter un système de change fixe qui soit basé sur les mêmes principes, mais avec des garde-fous. Et c'est finalement un système de cette nature qui a été imaginé lors du système monétaire international actuel, de son adoption tout au moins, c'est-à-dire le système, le fameux système de Bretton Woods. Alors, ce système, encore une fois, est organisé de la manière suivante. Sur le marché d'échange, des devises sont achetées ou vendues. Mais, au lieu de laisser le cours du change s'établir librement en fonction de l'offre et de la demande, les autorités monétaires de chaque pays prennent l'engagement de maintenir les cours de leur monnaie à l'intérieur d'une fourchette relativement étroite de part et d'autre de la parité, c'est-à-dire de la valeur or théorique, puisque, encore une fois, il n'y a plus de convertibilité, de libre convertibilité de l'or. Alors, ce système, bien sûr, est plus contraignant que le précédent, et en cas de déficit de la balance des paiements d'un pays, les autorités monétaires de ce pays doivent pouvoir disposer de réserves suffisantes, d'avoir les reins solides, comme on dit, ou encore d'emprunter. En effet, si le déficit subsiste, il ne reste plus qu'une solution, c'est d'emprunter. Et quand l'emprunt s'est terminé, quand plus personne ne veut prêter de l'argent, à ce moment-là, dernière solution, la dévaluation. Alors voyons maintenant, deuxièmement, ce qu'ont été concrètement les accords de Bretton Woods. Le système de 1944 est basé sur les deux règles que j'ai commentées tout à l'heure, c'est-à-dire, encore une fois, la libre convertibilité des monnaies et, d'autre part, la fixité des monnaies. De plus, tous les pays qui ont adhéré au Fonds monétaire international se sont engagés à toujours fournir autant de devises étrangères ou à l'inverse autant de monnaie nationale qu'il faudrait pour que le cours des principales monnaies reste fixe les unes par rapport aux autres. Il s'agissait en quelque sorte d'entériner la situation de l'époque sur le plan économique et d'entériner les hiérarchies qui existaient. États-Unis tout puissants, économies européennes et pratiquement tout le reste du monde complètement ruinés. Et les pays signataires des accords considéraient qu'une dévaluation devait être rare, bien sûr, toujours pour la même raison. Cependant, la possibilité d'une dévaluation était inscrite dans les règles adoptées à l'occasion du système monétaire. Simplement, il fallait obtenir l'autorisation du Fonds monétaire pour toute dévaluation supérieure à 10%. Enfin, dernier élément de ce système, le fameux Gold Exchange Standard. Alors, un système comme celui-là, disons grosso modo et pour le définir, est un système dans lequel les États gardent à la fois de l'or et des monnaies étrangères dans leurs réserves. Bon, comme l'étalon, oui. Si, alors justement, je suis en train d'expliquer comment fonctionne le système actuel. Je vais y venir. Non, j'essaie de vous expliquer comment fonctionnaient les mécanismes. C'est vrai que le système existait déjà auparavant, mais il s'agit de comprendre d'une manière progressive comment a pu fonctionner le système et comment il s'est détraqué. Bien. Alors, comme l'étalon or n'existe plus, mais qu'il faut quand même un instrument d'échange sur le plan monétaire, eh bien on va utiliser la monnaie la plus répandue, la plus utilisée, et cette monnaie jouera le rôle de numéraire et d'instrument d'échange. Alors comme le disait le camarade, c'est vrai, c'est, et ainsi que je le disais tout à l'heure, la livre sterling qui jouait auparavant ce rôle. Et maintenant ça va être le dollar. Après 1945, c'est le dollar qui relaie la livre sterling et qui devient cette espèce de monnaie universelle. Alors, il va de soi que le pays qui émet cette monnaie va bénéficier d'avantages tout à fait exorbitants. Car ce sont les autres monnaies qui doivent s'adapter sur le dollar. Et si beaucoup de dollars sont émis et dépensés, les taux de change des autres monnaies vont avoir tendance à augmenter. Et donc, en vertu des règles de fixité d'échange, les banques centrales vont devoir intervenir pour racheter du dollar. C'est ce qui s'est passé dans la réalité. Inversement, si peu de dollars sont émis, la demande de dollars sur le marché d'échange l'emporte sur l'offre, le taux de change alors a tendance à diminuer, et les autorités monétaires des autres pays doivent puiser sur leurs réserves ou emprunter pour soutenir le cours de leur monnaie respective. Bon, tout ça, ça signifie que le seul pays qui soit dégagé des contraintes d'équilibre de sa balance des paiements et d'intervention sur le marché d'échange est bien sûr celui qui émet cette monnaie universelle. Et ce pays, ça a été très concrètement les États-Unis, qui disposaient encore une fois d'un véritable étalon qui était l'étalon dollar remplaçant l'étalon or. Et le dollar est devenu, selon une expression très heureuse de Denis Clerc, je vous en parlerai tout à l'heure à l'occasion de la bibliographie que je vous donnerai, l'étalon dollar, est devenu une monnaie soleil, et les autres monnaies, des monnaies satellites. Certes, les accords monétaires de Bretton Woods avaient prévu que le dollar devait être librement convertible en or, sur la base d'une parité fixe de 35 dollars l'once, l'once représentant en gros 31 grammes d'or fin. Et ceci sur la simple demande des banques centrales qui voulaient convertir leurs réserves de dollars. Et c'est ce système de convertibilité indirecte, si je puis dire, qu'on a appelé Gold Exchange Standard, très concrètement. Bon. Pour toutes ces raisons, on a pu dire, économiquement, et c'est très juste, que les accords de Bretton Woods ont marqué l'écrasante suprématie des États-Unis face à des pays, encore une fois, épuisés par l'effort de guerre et face à des adversaires dont le potentiel économique était aux trois quarts détruit. Alors maintenant, troisièmement, de quoi est née la crise du système monétaire ? Eh bien, disons que de 1945 à 1958, les choses se passent relativement bien. Le système marche bien, connaît une extension considérable. C'est l'époque où le monde est complètement à genoux pour obtenir des dollars, bien sûr nécessaires pour acheter des biens indispensables, biens courants, machines, outils, et surtout des brevets. C'est l'époque de la fameuse aide Marshall, qui a été allouée si généreusement, entre guillemets, à l'ensemble des pays européens. Et cette aide Marshall était destinée à permettre aux pays occidentaux de reconstruire leur économie, en échappant bien sûr à la tentation du communisme, et surtout en redevenant des partenaires économiques intéressants. Bon, grave problème. Le système a tellement bien réussi que un certain nombre de pays sont devenus de redoutables concurrents pour les États-Unis. L'Allemagne, le Japon, la France. Mais jusqu'en 1958, les États-Unis déversent d'impressionnantes quantités de dollars et absolument personne ne met en doute que ces dollars valent réellement leur pesant d'or. Et tout va bien, encore une fois, jusqu'en 1958, où on commence à se rendre compte que les États-Unis dépensent largement plus qu'ils ne possèdent de réserves à l'étranger. Enfin, je veux dire qu'ils dépensent beaucoup plus à l'étranger qu'ils ne disposent de réserves. Je répondrai aux questions à la fin de la séance, il y a un débat. Il y a donc en 1958 une grave crise de conscience, de confiance, et encore une fois, en même temps et parallèlement, la remontée de ce qu'on pourrait appeler, bien que ce terme soit imparfait, d'impérialisme secondaire, celui du Japon, de la France, de l'Allemagne. Et il va y avoir à partir de ce moment-là véritablement exacerbation de contradictions inter-impérialistes. À partir de cette date, les États-Unis commencent à exporter leurs difficultés internes. C'est l'époque où le taux de profit commence déjà à diminuer aux États-Unis même. Et sur ces points, je vous renvoie aux études qui ont été faites par Biodeau et moi-même dans Critique Socialiste. On voit très bien que le taux de profit, on a fait des courbes, diminue à peu près, commence à diminuer dans les années 60 et diminue très fortement aux États-Unis à partir de 1964. Alors les États-Unis exportent leur crise et ils disposent de moyens considérables pour le faire. Ils disposent de l'instrument monétaire que je viens de développer, le système monétaire international. Ils obligent successivement l'Allemagne puis le Japon à réévaluer leur propre monnaie, bien sûr pour donner un coup de fouet à leurs propres exportations. Et puis quand ça devient plus possible, parce que l'Allemagne se rebiffe et parce que le Japon tape sur la table en disant que ça n'est plus possible, eh bien les États-Unis découvrent les beautés de la dévaluation du dollar. Bon, tout ça, ce sont des expédients. Encore une fois, depuis 1967, la crise n'a cessé de s'aggraver, et aujourd'hui, ce qui est grave pour eux, c'est que ces mécanismes traditionnels d'exportation de la crise, mécanismes financiers traditionnels, ne fonctionnent plus correctement. Et par conséquent, ils sont dans l'impasse. Alors, à partir de 1958, encore une fois, on assiste à des achats absolument invraisemblables d'or sur le plus grand marché d'or du monde, qui est celui de Londres. Bon, la situation se rétablit provisoirement et ne se détériore que lentement, malgré les bavardages du général de Gaulle et d'économistes distingués comme Jacques Rueff sur le talon or. Et encore une fois, depuis 1967, on est vraiment entré dans une nouvelle période et nous n'en sommes pas encore sortie. En 1967, la balance des paiements américaines accuse un déficit de 3,5 milliards de dollars. À ce moment-là, l'or monte en flèche et on finit par créer un double marché de l'or. Puis commence la valse dont je parlais tout à l'heure, des réévaluations du mark, du yen, puis des dévaluations du franc, puis du dollar. Et depuis, la crise, encore une fois, est ouverte. L'offensive menée par Nixon en 1972, situation devient préoccupante, se traduit à la fin de l'année 72 par un déficit sans précédent de la balance de l'endettement extérieur qui atteint 6,5 milliards de dollars. Non, un déficit de 80 milliards de dollars. C'est-à-dire 6 fois le montant des réserves dont il dispose. En or et en devises. 80 milliards de dollars. Dans un tel contexte, l'augmentation dont on parlait tout à l'heure du prix des matières premières et du pétrole ne peut s'analyser que comme une conséquence, une riposte des pays exportateurs de pétrole, une riposte directe à la véritable guerre commerciale enclenchée par les États-Unis, notamment par le biais de l'instrument monétaire dont ils disposent, à la tête duquel ils sont, et États-Unis qui n'ont pas hésité à redévaluer une nouvelle fois le dollar en 1973. Depuis, vous le savez, la situation a guère évolué. Il y a actuellement dérèglement de tous les mécanismes traditionnels d'exportation de la crise des États-Unis vers les autres pays. Et l'approfondissement de la crise depuis 1973 est le symbole le plus éclatant de cet échec. En d'autres termes, le dérèglement du système monétaire international n'est qu'un aspect d'une crise beaucoup plus globale. Et encore une fois, ça n'est pas du tout l'augmentation du prix des matières premières ni du pétrole qui est à l'origine de cette crise. Bon, je voudrais maintenant dire quelques mots d'un autre problème, celui de l'inflation. Bon, l'inflation est une manifestation de la crise que tout le monde perçoit sans nécessairement devoir être, l'inventeur du fil à couper le beurre. Cette inflation, elle est forte, elle est générale, elle est forte. Les économistes distingués dont je parlais tout à l'heure parlent d'inflation à deux chiffres. Elle a été de 15% en 1974 en France. Elle sera à la fin de l'année probablement de plus de 10%. Je vous rappelle que M. Fourcade nous avait promis 7% au début de l'année. C'est une inflation qui est générale. Elle affecte peu ou prou tous les États capitalistes et même les États socialistes. Là encore, je vous renvoie à une étude qui a été faite dans Critique Socialiste et qui montre très bien que l'inflation existe également dans les pays dits socialistes. Elle se manifeste par d'autres choses, telles que par exemple le gonflement excessif des livrets en dépôt dans les caisses d'épargne. Cependant, constater que l'inflation est forte et générale ne suffit pas, bien sûr, à expliquer pourquoi il y a inflation. Alors, vous le savez, il existe différents types d'explications de l'inflation. Ces explications sont plus ou moins banales ou plus ou moins sophistiquées. L'homme de la rue vous dira, c'est la faute aux salaires, c'est la faute aux Arabes, ou encore, c'est la faute aux banquiers. Et puis, les économistes bourgeois diront, il y a l'inflation est due à une demande excessive, il parle d'inflation par les coûts, encore d'inflation par l'offre de monnaie qui serait trop forte. Et on ressort les théories monétaristes traditionnelles, je pense à Rueff par exemple. Bon, pour essayer d'y voir plus clair, je dirais que, d'une part, et c'est le point que je vais essayer de développer maintenant, l'inflation peut être considérée comme l'une des premières manifestations de la crise, et que, d'autre part, Si l'inflation qui persiste aujourd'hui, malgré la débauche de politiques d'austérité dans tous les pays européens notamment, de politiques d'austérité, de refroidissement, tout en se conjuguant avec le chômage, eh bien, la persistance de cette inflation manifeste, encore une fois, l'approfondissement de la crise. D'abord, l'inflation comme conséquence de l'accentuation de la lutte des classes. Vous savez que, après que la guerre eut résolu les contradictions de la crise économique de 1929, le système capitaliste a plutôt bien fonctionné. Tout au moins pendant une vingtaine d'années et jusqu'à ces dernières années. C'est un système qui a connu une croissance relativement continue, et ceci grâce principalement à l'exploitation de couches nouvelles de travailleurs. D'autre part, en intégrant massivement la classe ouvrière au modèle de développement capitaliste, tandis que se poursuivait la liquidation de la petite bourgeoisie archaïque. Ce phénomène a été particulièrement net en France. Après la perte des colonies, perte définitive progressivement après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la France a connu ce qu'on appelle un développement auto-centré. Si vous voulez, l'exploitation de la plus-value était essentiellement basée sur, Biodo vous a expliqué ce que c'était, sur la plus-value absolue. À partir de 1958, le développement auto-centré va reposer sur l'exploitation relative, sur la plus-value relative plutôt. Et encore une fois, pour cela, on va utiliser de nouvelles techniques de fabrication, augmenter les cadences, etc. Et on va aussi liquider toute une série de couches qui jusqu'alors disposaient d'un pouvoir politique extrêmement important. Je pense aux agriculteurs, je pense également aux petits commerçants, de la boutique, au petit commerce, etc. Il y a eu donc accélération, accentuation de l'exploitation par l'utilisation de la plus-value relative. Concentration accélérée du capital qui a notamment conduit à la mobilisation croissante de masse croissante de travailleurs non qualifiés. C'est la fameuse émigration rurale, l'exploitation de plus en plus importante des femmes, des immigrés, avec également, phénomène très important dont on a déjà parlé, parcellisation croissante du travail, développement des chaînes, de l'automatisation, mécanisation dans les banques, codification en données normalisées du travail d'une partie de plus en plus importante de personnes qui jusqu'alors étaient investies, se croyaient investies, par exemple, d'une mission de service public, je pense notamment aux fonctionnaires. La modification du travail d'État dans les administrations est tout à fait considérable depuis quelques années. En effet, la plupart des agents de la fonction publique sont véritablement transformés en espèces de robots qui remplissent des grilles d'informatique dans les grilles rooms de l'administration. Et bien sûr, ce processus a permis d'augmenter le nombre des bas salaires, de freiner la tendance à la baisse du taux de profit. Si vous lisez Critique, vous verrez également que l'État a pu provisoirement s'opposer à la baisse tendancielle du taux de profit par la fiscalité. Mais c'est une autre affaire. Alors, que vient faire l'inflation dans tout cela? Eh bien, l'inflation est à la fois la condition du fonctionnement du système et en même temps la cause de son détraquement. En effet, l'inflation, comme condition, permet quoi? Eh bien, elle permet de faire accepter les cadences de plus en plus infernales, les primes, les heures supplémentaires. Elle permet de payer la masse croissante de la petite bourgeoisie moderne qui est nécessaire à l'encadrement technique des nouvelles couches dont je parlais tout à l'heure. De payer la masse croissante de la petite bourgeoisie nécessaire pour l'encadrement idéologique et administratif de la classe ouvrière. Elle permet également, chose très intéressante, de réduire le poids des investissements financés par des emprunts dont la charge bien sûr se déprécie par un autofinancement qui est finalement payé par le consommateur. En même temps, elle donne sa souplesse au système.